France Culture.
Pourquoi avez-vous peur? N'avez-vous pas encore la foi?
Bonjour à l'écoute de France Culture, en ce dimanche matin, Jean-Luc Guédreau avec vous pour un nouveau Soleil, le rendez-vous protestant, votre magazine proposé par la Fédération protestante de France. Nous parlions de jazz et de protestantisme la semaine dernière avec un batteur théologien, Thibaut Foulon. Hier, c'était la fête de la musique. Eh bien alors aujourd'hui, la réflexion continue avec un autre musicien invité, lui aussi batteur, percussionniste, producteur, arrangeur, mais aussi amoureux du texte biblique, des écritures, de la parole. Il la transmet, la partage, la commente, cherche à lui donner sens dans la période dans laquelle nous vivons et dans les vies de ceux qui la reçoivent. C'est Gabriel Alonso que je reçois ce matin avec également Vincent Smetana qui ajoutera sa chronique à notre discussion pour la déplacer sans doute et l'enrichir très certainement. Bonjour Gabriel Alonso.
Bonjour.
Bonjour Vincent Smetana.
Bonjour.
La musique est au cœur de votre vie, Gabriel Alonso, je le disais et je vais le démontrer aussi avec un petit CV rapide. Premier prix de percussion au Conservatoire de Grenoble, au Conservatoire de Créteil, au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Premier prix de percussion au CNSM de Paris, prof de percussion au Conservatoire National de Musique de Grenoble, professeur de batterie et percussion au département de jazz de Chambéry, timbalier à l'ensemble instrumental de Grenoble, musicien de studio, de scène, producteur, arrangeur d'albums. Et là, je ne fais que résumer les choses en faisant cette rapide énumération. Avant d'aller davantage sur un registre spirituel dans lequel vous êtes peut-être plus engagé aujourd'hui, j'aimerais quand même vous entendre sur votre rapport à la musique.
C'est très intéressant parce que quand j'entends ce qui a été mon parcours, mon CV, comme on dit, je me dis qu'effectivement ça représente plein d'années et en même temps ce rapport à la musique est tellement différent aujourd'hui. Pendant très longtemps j'ai pensé que la musique était la chose la plus importante et ça devait être la chose la plus importante. Et quand d'autres choses ont commencé à naître en moi, je savais plus où situer la musique en fait, jusqu'à ce que je comprenne que c'est un peu comme un tronc avec des branches. En fait, la créativité est le tronc et les différentes branches sont la musique et d'autres expressions dont on va parler plus tard, je pense.
Alors tout de suite, quand même, un premier extrait. On va aller vers ce premier tronc, cette première branche,
oui.
Pardon. Le tronc est là aussi parce que la créativité est présente certainement dans ce que nous allons entendre. C'est une chanson dont vous avez écrit le texte et la musique. Elle est interprétée par votre épouse Andy Alonso. Et le titre s'appelle « Le plus haut ».
Lui qui est monté bien plus haut que tout, plus haut que les cieux, que les autres dieux. Lui qui donne à tout.
La musique, Gabriel Alonso, comme cette première branche raccordée au tronc de la créativité, mais également, et on l'entend dans cette chanson, Christ est le plus grand, le plus beau, le plus fort, le plus haut. C'est aussi donc la foi en Jésus-Christ, cet amour du texte biblique, je le disais, l'envie de la partager comme conférencier, orateur et même auteur avec un livre dont nous reparlerons un peu plus tard, De l'ombre à la substance. Dieu, finalement, dans la vie de Gabriel Alonso, ça se passe comment? Racontez.
En fait, ce texte, ce chant, ouais, résume bien cette idée qui, pour moi, est fondamentale de de chanter Christ. Je crois que j'avais envie d'entendre des gens chanter autre chose que chanter eux-mêmes. Mm-hmm. J'ai envie d'entendre chanter Christ, en fait, et pas autre chose que lui. Et donc ce chant-là le met vraiment au centre. Ça parle de lui et ça parle du fait qu'il est tout en haut, il est le plus haut, il est le plus grand, il est le plus fort, il est le plus beau. Et c'est ce qu'il représente vraiment pour moi, pour ma vie. Et ça n'a jamais cessé depuis le jour où je l'ai rencontré, en fait.
Alors, vous me dites si je me trompe, mais en reprenant l'image de l'arbre que vous utilisez avec ce tronc, ces branches, est-ce que ce sont les racines? Est-ce que c'est l'arbre en entier? Comment vous diriez les choses?
Je pense que c'est les racines, je pense que c'est l'arbre, je pense que c'est aussi les branches, parce qu'il est tout.
Il est partout.
Il est aussi le tout autre. C'est encore une autre dimension. Il est dans ce qu'on comprend pas encore, mais qu'on va découvrir. Et c'est ça qui fait que...
Il est dans les futures feuilles, futurs fruits qui vont venir.
Exactement. Il est dans notre façon de penser qui change au fur et à mesure.
Alors, on va parler de plein de choses aujourd'hui, des sujets qui vous tiennent à cœur, ce que vous transmettez quand vous intervenez dans vos nombreux déplacements. Mm-hmm. Dans les sujets que vous portez et sur lesquels vous intervenez, justement, il y a la question de l'incarnation. Nous allons en parler, mais Vincent Smetana, qui a toujours le mot pour dire, évidemment, c'est précisément arrêté sur ce vocable et il voulait donc nous livrer le fruit de sa réflexion.
À vrai dire, il me vient bien de parler d'incarnation, mot pour dire une forme certaine de réalité, d'oralité savoureuse, de sensualité, même sensualité du verbe et du geste. Alors, incarnation, du latin incarnatio ou incarnare, prendre chair, prendre corps et aller j'ose, prendre viande. C'est savoureux cette idée hein, d'une parole qui s'incarne, qui prend chair, oui, qui libère la salive en chatouillant l'appétit d'être en vie. Alors je ne sais pas comment ça fonctionne en France, mais en Belgique, dès les premiers beaux jours, les vendredis soirs d'été ou même d'avril, pourvu qu'il fasse un peu soleil, revient en l'humain un féroce appétit de viande, de braise, une intuition pré-néandertalienne de coucher sur la flamme de feu la chair, chair à saucisse, chair à lard et à côte, chair à boudin. Les étals de boucherie en sont pleins, sont pris d'assaut, sont dévalisés par tous ces corps d'humains, soudain saisis d'une grande faim première.
Mais oui, Vincent, rassurez-vous, c'est pareil ici en France.
Oui, c'est pareil en Angleterre.
Pareil, le barbecue et d'autres dérivés sont sortis. Alors je dis à table, avec la Bible, même, soyons fous.
Oh, mais vous êtes fous. Ça s'appelle un placement de produit, ça. Oui, à table, avec la Bible, chers amis, l'auteur de ce livre est dans ce studio, et ça n'est pas moi.
Mais passons.
Donc, parlons de la bonne nouvelle d'une parole qui éveille en nous, oui, je le dis, un féroce appétit, une irrépressible gourmandise du vivant, une envie de passer à table illico, mais au propre comme au figuré, tout déballer, éplucher, dépiauter, aiguiser le couvert, faire revenir nos pensées à grand feu, laisser mijoter nos prières et nos vœux à bas feu, rissoler nos ratages et fouetter l'onctuosité de la tendresse qu'elle contient, cette parole, puis, oui, flamber sans embâge tout l'amour qui entre nous se partage et ainsi faire de la bonne nouvelle, de cette bonne nouvelle, une matière nourricière. Mais oui!
Mais oui! Et d'ailleurs, ça fait deux fois que je vous relance de la sorte, Vincent.
Mais oui, ça fait deux fois!
Ouais, et j'incarne là, finalement, mon accord, mon enthousiasme. Mais alors, tout de même, Vincent, soyons un peu plus concret, en fait, surtout vous, soyez-le, ça serait mieux, c'est bien de parler de gras, de chair, de jus, mais qu'est-ce qu'une parole incarnée? Moi, je vous le demande.
Eh bien, incarnation, action de donner une existence concrète à une valeur abstraite, donc une parole qui s'incarne est une parole à laquelle mouler nos cœurs et nos corps, une parole qui ainsi en nous inspire et respire et nourrit et nous meut et nous émeut et nous élance, une parole qui fait chemin et pioche et transpire, une parole qui goûte et qui sent, une parole d'huile et d'eau, de sec et de gras, de sève et de sang, une parole devenue réelle qui bouge et nous bouge et plonge dans nos bouillons et se loge dans nos tripes. Eh bien, bonne nouvelle, au commencement, cette parole-là, au commencement, cette parole qui existe et qui habite parmi nous, en nous, se révèle, oui, et ricoche sur notre existence, nos angoisses et nos absences, nos joies, nos déroutes, nos fêtes et nos défaites, en nous donnant le goût de vivre. Alors, question, pourquoi l'a-t-on désincarné et quand cette parole qu'on nous donne à avaler plutôt qu'à savourer, à singer plutôt qu'à habiter, une parole qui s'incarne est une présence, un engagement, un toucher. Une parole qui s'incarne, c'est un territoire, une traversée, un voyage. Une parole qui s'incarne est espace et patience, où l'on s'implique et se dépense et se dépasse. Une parole qui s'incarne, c'est un langage de plénitude. poétique, éthique, politique, esthétique. Une parole qui s'incarne est une parole qui exprime et agit, qui crée, qui réalise et compose et conçoit et nous donne à expérimenter pour nos vies une résonance neuve, comme jaillie du silence. Mmh. Alors, disons ceci. La parole n'existe que si elle s'incarne dans un individu agissant, elle, lui, vous, nous, moi. Une parole incarnée, c'est une parole qui a un vrai goût, là. Oh là là, Vincent, mais qu'est-ce que c'est que ce slogan à la 642, là? Le vrai goût de la parole. Non mais franchement, et pourtant, quoi de plus juste qu'une parole qui est juste, comme le dit Gérald Garouti, qui est bonne, qui est bénéfique, bienveillante, bienfaisante, fructueuse, productive, constructive et harmonieuse. Allez, petit sondage à l'arrache. Incarner ce que l'on pense et dit, est-ce le commencement d'une vie honnête? Répondez sur une échelle de 1 à 5. 5 pour oui carrément, 1 pour non, pas du tout. Quoi qu'il en soit, le truc vrai, le seul, ce serait ça. Quelqu'un ou quelqu'une qui incarne la parole et quelqu'un ou quelqu'une qui, dans cet élan, nous ramène à la vie en nous y confrontant avec audace et appétit. Ainsi soit dit.
Alors franchement Vincent, moi j'ai faim là, c'est l'heure du petit-déj bien sûr et vous êtes peut-être en train de prendre votre petit déjeuner en écoutant la radio, mais je sens qu'il va y avoir de la grillade chez beaucoup de nos auditeurs aujourd'hui, enfin je dis ça. En tout cas merci beaucoup Vincent et je me tourne vers vous Gabriel, comment réagissez-vous à tout ça et puis peut-être à cette phrase en particulier, cette parole incarnée comme une parole qui a un vrai goût.
C'est beau ce qu'on a entendu, c'est très beau. Et c'est fondamentalement important, parce que la parole a en elle cette vocation de s'incarner. Et c'est une transaction entre celui qui l'a dit et celui qui la reçoit. Cette transaction doit prendre place. Moi, j'aime, lorsque je vais quelque part, que l'individu puisse accueillir cette parole et l'utiliser, en faire ce qu'il veut, qu'il soit professeur de faculté, musicien, qu'il soit plombier, qu'il soit chauffeur de taxi, qu'il puisse prendre ce qu'il entend et utiliser, incarner cette parole, s'en servir là où il est et qu'elle lui soit utile dans sa vie de tous les jours. Il ne faut pas qu'on ait ce divorce entre ce qui est dit, en fait, et ce qui est reçu. Il faut que la parole s'incarne dans la vie de celui qui l'entend. Et c'est aussi le travail de celui qui parle. C'est très important.
Et finalement, on peut dire que c'est cette préoccupation que ce qui est communiqué puisse être appliqué dans la vie de celui, de celle qui reçoit. Peut-être pour reprendre, enfin, je pensais à cette image, reprendre des mots qu'on a beaucoup utilisés pendant le Covid, c'est plutôt du présentiel et pas du distanciel entre la parole et celui qui reçoit cette parole.
Oui, avec la différence peut-être qu'une parole peut être donnée et elle prend du temps à s'incarner dans la vie de l'individu. Oui. Mais c'est très important.
Mais l'objectif est là.
L'objectif est là. L'objectif est là, absolument.
Jésus, sans doute aussi pétri de cette même préoccupation, parlait beaucoup en parabole, justement. Et l'une d'entre elles, en préparant cette émission, on en a parlé, vous a particulièrement marqué, celle qu'on appelle parabole des talents. De quelle façon vous a-t-elle marqué et qu'est-ce que vous en avez justement tiré?
Elle m'a marqué parce qu'elle parle de choses que nous avons tous reçues, en fait. Celui qui a reçu un talent, celui qui a reçu deux talents, celui qui en a reçu cinq. Tout le monde a reçu quelque chose. Et cette parabole ne parle pas du salut. Il n'y a pas cinq saluts, il n'y a pas deux saluts. Elle parle vraiment des dons naturels que Dieu a donnés à chaque individu, même avant que celui-ci ou celle-ci ne connaisse Dieu. Et c'est intéressant parce que ça veut dire que ce que nous avons reçu, il y a une redevabilité. Nous devons faire travailler ce que nous avons reçu et montrer le capital de ce qu'on a reçu. Après, un jour ou l'autre, on sera devant lui, il va nous dire « qu'est-ce que tu as fait avec les talents que je t'ai donné ?» Quelquefois, les gens me disent « moi, j'ai rien reçu, j'ai rien, j'ai pas de talent. » Je dis « c'est pas vrai. » On a tous au moins reçu une chose. Au moins une chose.
Et il ne faut pas l'enfouir, il ne faut pas avoir peur.
Quelquefois, je parle à des gens dans des prisons, ils me disent « moi, j'ai raté ma vie. » J'ai dit « mais ça, cette conclusion est un talent extraordinaire à partager à quelqu'un qui a peut-être besoin de l'entendre pour qu'il n'arrive pas, en fait, à cette même conclusion, pour qu'il ne soit pas là où où vous êtes là aujourd'hui.
Hein, ouais. Le talent n'est pas forcément, le don n'est pas forcément là où on l'imagine. Et puis, c'est peut-être une question de regard sur soi-même aussi,
oui,
derrière.
Absolument, absolument. C'est pas forcément être musicien, ouais, ou être un athlète. C'est aussi vivre. C'est comment on vit. C'est le contexte dans lequel on est. C'est toutes ces choses-là, en fait.
Alors, on parle de paraboles. Il y en a une que vous avez mise en chanson, celle dite du fils prodigue. Elle devient, dans votre écriture, enfin. Et c'est le final que vous nous proposez d'écouter, avec toujours la voix d'Andy, votre épouse.
Enfin, je vois mon père. Il me reçoit les bras ouverts. Jamais je n'aurai
Gabriele Andy Alonso, enfin cette parabole du fils prodigue, d'ailleurs qui finit avec des grillades, là, on va manger le veau gras, il y a un grand festin,
une grande fête.
Peut-être un mot sur cette chanson.
Je suis toujours très ému quand j'entends ce chant-là, parce que c'est plus qu'un chant, c'est une histoire, ouais, d'un jeune homme qui part et qui va dilapider, en fait, sa vie. Il va partir en vrille, comme on dit. Et puis, à un moment ou à un autre, il va... et le texte est beau, là, justement. Il va rentrer en lui-même. Il y a ce regard, en fait, un regard différent sur sa perspective. Et il va dire, mais non, il faut que je revienne à la maison de mon père. Et ce qui est touchant, c'est l'attitude du père. Parce que je suis convaincu que le père était là tous les matins, tous les soirs, tous les après-midi, à regarder l'horizon, à essayer de voir si son fils ne revenait pas. Et le jour où il est revenu, je pense qu'il est parti, il a couru, il l'a pris dans ses bras, et il a dit « enfin, enfin
ouais, ». Ouais.
C'était vraiment « enfin ».
Alors pour le frère, ça a été plus compliqué, semble-t-il.
Il y a quelque chose qu'il n'avait pas compris.
Ouais. Alors, ce que j'aime beaucoup, moi aussi, dans cette histoire de Jésus, c'est que finalement, la fin est ouverte.
Et, oui, oui. Absolument.
Jésus n'essaye pas de nous dire quelque chose à tout prix, là, mais il nous laisse aussi recevoir, accueillir cette parole, la laisser faire son effet en nous, et
en
puis parlant différemment de... peut-être.
C'est
en
ça,
fonction
et en parlant d'incarnation
de
la parole, c'est là vraiment un exemple de... On parle beaucoup en musique de résonance, en fait. Hein. C'est le dernier accord, la résonance d'un accord, quelquefois, laisse percevoir des harmoniques qu'on n'entend pas au début. Et là, le fait que cette parabole est ouverte à la fin, ça prête à réflexion.
Voilà. Pour notre rendez-vous avec la parole, qui nous permet d'écouter un court texte biblique pour nous nourrir et nourrir également la discussion, vous m'avez proposé d'aller dans le livre du Deutéronome, au chapitre 8, les versets 7 à 9, et nous nous y rendons donc avec le comédien Thierry Cazazian.
En effet, l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays. C'est un pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Un pays de blé, d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers. Un pays d'oliviers et de miel. Un pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien. Un pays dont les pierres sont du fer et où tu pourras extraire le cuivre des montagnes.
« Alors c'est la fameuse terre promise qui est ici annoncée, mais ce texte vous inspire au-delà de l'événement raconté. Pour vous, il peut aussi précisément avoir une résonance pour aujourd'hui, à la lumière de ce que vous nous disiez avant, nous rejoindre encore aujourd'hui, Gabriel.
Mais absolument, parce que pour nous qui sommes dans la nouvelle alliance, la terre promise a une autre résonance en fait. C'est le royaume de Dieu, c'est de vivre avec le Seigneur, c'est de découvrir les choses qu'il a pour nous. Et il y a une chose qui est très importante et qui, pour moi, fait que ce que je fais, je vais continuer à le faire tant que je pourrai le faire, c'est que les richesses naturelles sont cachées dans la terre.
Le fer, le cuivre.
Et une de mes plus grandes passions, et je pense que ça a commencé dès mes premières années lorsque j'étais professeur de percussion au CNR de Grenoble, c'est d'aller chercher dans la terre de l'autre, en fait, la richesse qu'elle contient. Et je le vois dans la vie de jeunes gens comme de personnes qui sont moins jeunes, mais qui n'ont jamais eu peut-être l'opportunité de penser comme ça. Mais je vois les richesses dans cette terre-là. Et c'est important parce que c'est comme si, dans le texte, quand on le lit comme ça, c'est comme si Dieu nous invite à inventer. Tu vas en extraire du fer, tu vas faire certaines choses, Et après, il va dire aussi, attention de ne pas m'oublier, de ne pas faire de l'idolâtrie, de ne pas faire n'importe quoi. Mais c'est une invitation à découvrir. Et nous devons devenir des explorateurs de nos vies, mais aussi des explorateurs des vies qui passent
autour
de
nous. Ouais.
Dans les nôtres, en fait.
Mais aller dans les profondeurs de l'âme, en fait.
Absolument.
J'ai évoqué dans mon introduction votre livre « De l'ombre à la substance » aux éditions Jeunesse en Mission. Dans cet ouvrage, et à partir de votre propre histoire, votre témoignage, vous développez justement tout ce que vous nous dites là ce matin, cette volonté de comprendre la relation entre nos dons naturels et les capacités reçues par le Seigneur.
Oui, absolument, parce qu'elles ont il y a une relation, et on la trouve cette relation très fortement, par exemple, quand on comprend la vie de disciples Pierre, et des pêcheurs de poissons, à qui Jésus va dire des choses très fortes. Il va leur dire, à partir de maintenant, je vais faire de vous des pêcheurs d'hommes. Donc il y avait une relation de ce qu'ils étaient dans l'ombre, on va dire.
C'était pas juste un jeu de mots.
C'était pas juste un jeu de mots. Je pense qu'il y avait une relation. C'est pas par hasard non plus qu'il les envoie deux par deux. Je crois qu'il y avait une façon de pêcher en laissant tomber le filet, en fait, entre deux bateaux et en ramenant tout ce que le filet traînait, en fait. Mais il y a vraiment une relation entre ces deux choses. Et il y a dans la vie de l'individu des talents qui pointent dans la direction de ce qu'il est appelé à faire par la suite. Pour moi, par exemple, et j'en parle dans mon livre, dans le fait d'accorder les timbales, quand j'étais timbalier, ça m'a aidé à comprendre la nécessité, encore une fois, d'aider les gens à accorder leur vie. Aux richesses qu'elles contiennent, en fait, hein, dans leur terre, dans les promesses que Dieu a pour eux. Donc la relation est vraiment forte, elle est là, elle existe. C'est pas juste une idée intéressante.
Justement, enfin, je repense à votre façon de jouer des percussions. Je me souviens vous avoir vu avec des percussions et puis vous utilisiez l'eau aussi pour jouer avec. Vous pouvez peut-être en dire un mot pour que nos auditeurs comprennent.
Oui, parce que j'ai toujours été attiré par le son, par le contraste. J'ai eu le privilège de travailler avec des musiciens, avec des je les appellerais des maîtres,
gens
comme Olivier Messiaen, par exemple, pour des gens qui savaient parler de la texture, de la couleur des sons. Et donc, de mélanger l'eau avec un son de marimba, ou avec un son de grosse caisse symphonique, ou avec un son de timbale, je me souviens à quel point ça intriguait les auditeurs dont vous étiez. C'est quand même pas commun, ce genre de choses, mais c'était une expérience fabuleuse pour moi.
Et toujours une question de résonance, d'aller chercher dans le profond des choses le son et la manière de lui donner du sens. Je suis très heureux de vous avoir accueilli, Gabriel Alonso. On arrive déjà à la fin de l'émission.
Ça passe tellement vite. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Gabriel. Belle suite à vous. Alors, autant artistiquement, spirituellement et humainement, dans tout ce que vous êtes amené à vivre actuellement.
Merci
beaucoup, Vincent. Et à très bientôt pour une prochaine émission.
À très bientôt.
Alors, je parlais du livre de Gabriel Alonso, De l'ombre à la substance. Eh bien, ajoutons quelques autres recommandations littéraires avec des sorties récentes aux éditions Cabedita de Claude Demissy, La Bible des festins, encore une histoire de nourriture. Un petit livre de 90 pages pour explorer la dimension spirituelle de l'alimentation dans la Bible. En revisitant les récits et les pratiques du premier et du second testament, l'auteur montre comment la cuisine et les repas véhiculent des messages éthiques et théologiques. Il établit également des liens avec les préoccupations éthiques modernes sur la nourriture. Chez Labor et Fides, le manuel de théologie d'Israël, l'Alliance jamais révoquée, un ouvrage collectif qui réunit les travaux de chercheurs protestants, catholiques, orthodoxes, originaires de plusieurs pays, qui montre de quelle manière la tradition et les ressources propres aux églises peuvent être mobilisées afin de lutter contre tout anti-judaïsme et formuler des réponses qui puissent servir le dialogue judéo-chrétien. Aux éditions Ménonites, Face au désastre, encore un livre collectif, mais là qui reprend 3 conférences magistrales et 8 textes émanant des divers ateliers qui suivirent lors d'une journée sur la pensée de Jacques Ellul. On y trouve une présentation de la pensée de Jacques Ellul et puis des applications actuelles. Cette lecture aidera à comprendre le monde actuel et à penser nos sociétés techniciennes, à prendre conscience d'évolutions mortifères, mais aussi à faire le choix délibéré de l'espérance, malgré tout. Toujours aux éditions Ménonites, une bande dessinée, cette fois-ci, qui sort à l'occasion de l'anniversaire de la naissance du mouvement anabaptiste, dont nous reparlerons très prochainement dans Solae, Par l'eau, pour raconter l'histoire de Félix Mantz, fils d'un prêtre catholique qui devient le chef de file d'une révolution non violente. Dans cette mise en scène dramatique de la naissance de la réforme radicale, l'eau est à la fois miracle, mais aussi arme fatale, symbole de vie nouvelle et condamnation à mort. Et enfin, pour terminer, signaler la réédition de 2 très jolis livres de poésie spirituelle signés par Francine Carillo, Braise de douceur et Le sable de l'instant. Une poésie tout en finesse et en sobriété qui touche le lecteur en son cœur. Une possibilité de lire ces ouvrages comme une halte spirituelle offerte. Et ça, c'est aux éditions Olivetan. Et pour nous séparer, eh bien, je vous propose un titre d'un groupe qui a marqué l'expression contemporaine de la louange dans les églises chrétiennes francophones et avec lequel vous avez aussi beaucoup joué, Gabriel Alonso. Oui. C'est le groupe Exo.
Absolument.
Vous les accompagnez à la batterie sur ce titre tiré de l'album Éclat 4, Antilles, Si tu veux le louer.
Si tu veux le louer, sache, il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche. Pensez qui t'attache et te font peur. Si tu veux le louer, aime. L'âme est celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème. Avant que tu récolteras demain. Pas besoin de diplôme, pas besoin de latin. Juste aimer son nom et son esprit saint. Et l'on devient fou, fou de ce Dieu-là. Ce bon Dieu d'amour, bon Dieu tout en moi.
C'était Solae, le rendez-vous protestant sur France Culture proposé par la Fédération Protestante de France, présenté par Jean-Luc Gadreau, réalisé ce matin par Thomas Jost avec Cédric Chatelus à la prise de son. Émission à réécouter cette semaine sur le site protestantpluriel.org, à tout moment sur celui de France Culture ou en podcast au moyen de l'application Radio France. Ce matin sur France 2 à 10h dans Présence Protestante, c'est un culte qui vous est proposé en direct avec l'Église Protestante Unie de Levallois-Clichy. Et sur France Culture, vos programmes continuent dans quelques instants avec Talmudique, présenté par Marc-Alain Wachnin, juste après vos informations. Très bon dimanche à chacune et chacun.
Fais ça. Qui t'attache et te font peur.